Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 23 juin 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Jam Not Dead. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici les badass que vous attendez tous.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Alors on met le retour pas trop fort comme ça, ça va pas l'arsener, hein. Bonjour Thomas.
Salut du sport.
Alors, on est à nouveau tous les deux, tout seuls, sans Daskitch. Et on retrouvera Daskitch, je pense, samedi prochain. Hein, si, ou non, pas samedi prochain, dans 15 jours, hein, puisque
ouais, voilà,
on nous a dit, c'est
retour,
retour début juillet. Donc, c'est bien, on va pouvoir faire ce qu'on veut, comme d'habitude. Alors, la semaine dernière, on vous a fait un spécial Prometheus, un spécial Alien cinéma pendant 2 heures. Hein, on a fait péter les scores carrément, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de coupure entre le supplément week-end et la musicale du sport. Donc on va faire un petit peu plus court à mon avis,
voilà,
quand même.
Light.
Et on va pas trop parler de cinéma. Si, on va faire le cinéma à la télé en fin d'émission, mais on va surtout parler bande dessinée.
Et oui, puisque Sandastri, c'est notre petite blagounette, hein. Notre spécialiste BD n'est pas là, donc on parle de BD. Forcément,
normal,
c'est logique.
Normal.
Est-ce que, entre-temps, tu es allé voir Prometheus, finalement?
Non, pas du tout.
Toujours
non,
pas?
Non, pas eu le temps. Non. Bon, mais il va rester à l'affiche pas mal de temps, hein. Il faut qu'il reste longtemps à l'affiche, hein, pour rentrer, des sous, histoire de rembourser un petit peu, quoi, le coût phénoménal de la publicité de ce film.
Et à noter, je pense que c'est ce week-end la fête du cinéma. Donc je crois que c'est ce week-end, hein. C'est toujours le week-end de la fête de la musique. Ou alors c'est peut-être le week-end prochain.
Non, c'est le week-end prochain.
Fin juin,
début juillet. Je crois que c'est à cheval, hein, sur fin juin et début juillet.
Donc si c'est le week-end prochain, tu pourras peut-être aller voir Prometheus pour un tarif modique, une place très très réduite.
Ouais, peut-être, mais enfin bon, tu sais, moi personnellement, il y a pas mal de films que je loupe au cinéma et que je me dis après, je les verrai à la télé, et puis après visionnage fait à la télé, je me dis bon bah ok quoi, j'ai mieux fait de pas avoir payé mon entrée de cinéma quoi pour ce genre de film. Donc de ce côté-là, il y a pas de problème.
Alors, d'accord. On va commencer peut-être avec la revue de presse puisque ce sera l'un des passages cinéma un peu détourné de l'émission avec le nouveau première. Donc on est loin de Septième Dimension et de Mad Movies de la semaine dernière. C'est plus dans le consensuel, dans le tout public, avec ce numéro, le numéro 424 de juin 2012 de ce mois-ci, donc au prix de 3,50€ en kiosque. Avec en couverture, c'est Romain Duris et Déborah François pour le film populaire de Régis Roinsart. C'est un film dans la veine de Mad Men qui est très qui se passe dans les années 50 avec donc voilà, les beaux costards, etc. À l'ancienne, avec les gros fumeurs, voilà. On a également dedans, alors en tant que dessinateur, ça m'a intéressé, je vais te le retrouver. Donc c'est une interview de Peter Desève qui est le character designer de la série de L'Âge de Glace. C'est le créateur notamment de Scrat.
Oui.
Voilà, donc il y a une interview en dessin. Donc on lui pose une question, il se représente en dessin.
Ah ouais,
voilà.
Pas mal.
Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors il disait dans l'interview justement qu'il en a marre qu'on lui demande que des dessins de Scrat partout, parce qu'il a vraiment ras la casquette de Scrat, Scrat par-ci, Scrat par-là, puisque forcément les journalistes, c'est aussi des fans de la série, donc il dit « Ah, est-ce qu'on pourrait avoir un petit Scrat ?» Bon, voilà. Il y a pas mal de reportages sur des tournages. Alors, hormis le portfolio spécial Cannes, qui est pas très intéressant, puisque les photos, je les trouve pas sensationnelles non plus. Mais tiens, je te le passe pendant que j'en parle. On a une courte interview de Danny Trejo. Donc, c'est toujours sympa, même s'il y a que 3 réponses. Voilà. On a une interview aussi carrière de Raume Balaguerro, qui était le réalisateur de La Secte sans nom, Malveillance et Rec. l'interview carrière où il revient sur sur ses films. Reportage sur le plateau du tournage du nouveau film de Juan Antonio Bayona, qui était le réalisateur de L'Orphelinat, encore un réalisateur espagnol, sur le tournage du son nouveau film qui s'appelle The Impossible, qui se passe pendant le tsunami dans le sud-est asiatique en 2004 avec Naomi Watts et Ewan McGregor. Et également un reportage sur le tournage du nouveau film produit par Alexandre Aja, qui est encore un remake d'un film glaçant des années 80 qui s'appelle Maniac, avec Elijah Wood dans le rôle du serial killer. Voilà. Hormis, évidemment, il y a aussi le cahier critique avec les étoiles, etc. D'ailleurs, The Raid est pas mal noté. Interview de Gareth Evans aussi, le réalisateur gallois, et il y a une bonne note pour The Raid. Donc ça me décidait peut-être à aller le voir finalement au cinéma. Pour profiter des bastons à Jakarta. Voilà, première, numéro 424 de juin, 3,50€ en kiosque.
Ouais, en tout cas, je dirais que ils se sont pas trop pété le
coquillard.
Parce que bon, bah effectivement, quoi, il y a toute la série de photos, quoi, sur Cannes. C'est bien, ça en prend des pages. Ça évite d'avoir à écrire, hein.
Ah, ça, c'est sûr. Hein? Mais les photos, elles sont pas extraordinaires non plus, hein.
Non. Bah.
C'est très naturaliste.
Okay, ouais, c'est ça. Oh, y a un petit peu de faux David Hamilton.
Oui, voilà, ouais, c'est Bernice Bejo qui est méconnaissable. Pas mal, ouais.
Ouais, bon, ben.
Voilà, bon, ben, sinon, interview de Channing Tatum et d'autres que je n'ai pas précisé. Kristen Stewart, ça, c'est pour les fans de Twilight et de Blanche-Neige. Ensuite, on va peut-être enchaîner avec la bande dessinée. On commence par du soft avant d'enchaîner avec les badass ou alors
tant qu'on y est, quoi, dans les revues kiosques, on peut attaquer. Mais là, en bande dessinée, ça faisait longtemps, mais c'est normal, hein. Supplément Week-end a connu quelques émissions sans, quelques émissions un petit peu spéciales et tout, donc j'ai pas pu les caser quand même. Alors quand même, pour vous signaler deux événements assez énormes, et c'est marrant parce que c'est pratiquement en même temps, hein, concernant Batman, c'est-à-dire DC Comics, et concernant Spider-Man, c'est-à-dire Marvel. Le numéro de Spider-Man 149, donc le numéro de juin, est une histoire complète. Mais par contre, par rapport au déroulement du continuum dans l'histoire de Spider-Man, on sait que il en est dans l'arc. En ce moment, on est dans l'arc Big Time, c'est-à-dire que en principe, il travaille dans un labo, il a été embauché et tout. Et là, on va revenir en arrière, on va revenir au moment où il travaille encore comme photographe pour Jonah Jameson en tant que maire de New York, et il se fait virer donc par ce Jonah parce qu'il a essayé de lui sauver la mise et il a trafiqué une photo. Et donc Jonah Jameson, d'accord, sort innocenté du crime dont il est accusé grâce à cette photo, mais vire Peter Parker parce que ben il a trafiqué une photo. Donc c'est un petit peu, on va dire, un épisode un petit peu stand-by. Mais pourquoi est-ce que on met cette histoire complète, hein, c'est en trois parties dans ce Spider-Man 149? Parce que à partir du mois de juillet, le mois de juillet, c'est quand même la sortie de Spider-Man le film, et on va tout remettre à plat. On fait un petit peu un reboot, on va dire.
Un reboot.
il va y avoir une nouvelle édition de Spider-Man qui ne sera pas au numéro 150, mais qui va recommencer au numéro 1 l'édition française. Voilà. Vous en saurez un petit peu. Ou justement, on va tout remettre à plat. C'est-à-dire que bon, on va repartir à zéro pratiquement, hein, pour coller avec l'actualité, c'est-à-dire pour coller avec la sortie de Spider-Man le film. Et ça, on le savait, ça on l'a appris, je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça. Je savais déjà un petit peu en amont que du côté de chez DC, eh ben c'était fait, il y avait pas de problème. Côté américain, on a tout remis à zéro. Tous les super-héros de DC, alors Green Lantern, Superman, Batman, tous, hein, Flash, Daredevil, enfin non pas Daredevil, tous ceux de DC, chaque magazine aux États-Unis est reparti au numéro 1. Et donc, de ce fait, on sait que en France, il y avait l'échéance Panini qui courait jusqu'à fin 2011. Là, maintenant, eh bien, c'est Urban Comics qui a repris le truc. On a eu deux numéros de Batman Showcase, d'accord, hein, qui continuaient un petit peu parce que c'était toujours scénarisé par Grant Morrison, qui continuait donc son histoire après son arc Batman RIP qui repartait sur un autre arc,
mais Batman
aidé,
Inc.
Voilà, Batman Inc. Mais aidé en cela par d'autres scénaristes. Et là, ben, on attaque avec Batman Saga, hein, qui est une nouvelle édition de Urban Comics. C'est un numéro 1. Et en fait, dans ce Batman Saga, on ne s'attache pas uniquement à, ben, on va dire Batman, c'est-à-dire dans la continuité de des arcs de Grant Morrison, voire de ceux de Tony Daniel, qui bossait avec avec Grant Morrison ou qui bossait tout seul, hein. On a vu que c'est lui qui a quand même écrit et dessiné. Alors là, c'est une caractéristique de Tony Daniel, c'est un dessinateur, mais c'est également un scénariste. Et il a fait plusieurs numéros de Batman tout seul, c'est-à-dire dessin et scénario. Tony Daniel qui revient là dans ce Batman Saga, mais pour un truc tout à fait différent qu'on ne connaissait pas en France, disons en édition française, mais qui est en fait l'ancêtre. Détective Comics, qui parle bien entendu quand même de Batman. Alors on a le Batman, on a Détective Comics, on a Batman et Robin, on a Batgirl, et ça c'est pas mal, c'est quand même la grosse surprise, parce que bon, Batgirl est une super-héroïne qui est un petit peu sous-exploitée, on va dire. Hein,
qui est pas très connue chez nous.
Qui est pas très connue chez nous. Et là, eh bien, elle revient sur le devant de la scène. Elle avait déjà été mise en avant il y a un an ou deux ans du côté des États-Unis, parce que bon, pas mal de scénaristes femmes se disaient, écoute, c'est pas normal. C'est que des mecs, c'est histoire de mecs et tout. Les nanas sont des faire-valoir, des fois bien utilisées, c'est vrai, la plupart du temps. Mais il y a pas vraiment de super-héroïne. La seule super-héroïne valable de DC, en fait, c'est Wonder Woman. Wonder Woman, dont le relaunch a été fait il y a plusieurs années, mais qui n'a pas eu les résultats escomptés. C'est-à-dire, on s'attendait du côté de chez DC à ce que ça marche vraiment bien, que Wonder Woman cartonne à fond les manettes au niveau vente de comics, et bon, c'est ça a été un petit peu moyen, on va dire. Donc on a mis un petit peu l'édition de Wonder Woman et la mise en avant de Wonder Woman, on l'a mis un petit peu en veilleuse, et là on essaye avec d'autres super héroïnes avec donc en l'occurrence Batgirl. Pour finir, hein, en ce qui concerne ce relaunch, enfin ce redémarrage à zéro de chez DC, c'est que ils ont pas moins de 50 éditions différentes qui repartent à zéro.
Ah ouais. Alors,
donc ça fait énorme, c'est énorme. Moi ça me paraît de trop, hein, de toute façon, quoi. Il y a pas de problème. Je sais pas si le public va y trouver son compte. Enfin je sais pas si eux surtout financièrement vont y trouver leur compte. Hein. Ça va être assez dur à mon avis. Hein. Bon pour le côté français, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est pas mal, quoi. Alors donc on a Scott Snyder qui nous fait le Batman, hein, qui reprend un petit peu quoi le truc instillé par Morrison, et on garde un petit peu le même état d'esprit, on va dire. Les histoires sont différentes. Ensuite bon, Tony Daniel, lui, qui s'occupe de la partie détective comics, et là il nous fait l'épisode Le Taxidermiste où on remet en scène le Joker.
D'accord.
Voilà. Batman et Robin, c'est par Peter Tomasi, et Batgirl donc, eh bien c'est par Gail Simone, c'est-à-dire c'est une scénariste, hein, mais une scénariste qui est très très connue dans le monde des comics, vu que elle a fait du Marvel comme du DC, l'un et l'autre, en étant vraiment excellente de toute façon, quoi. Et en faisant des trucs, des épisodes des fois très très durs, hein, très très heavy, hein, des épisodes bien rentrent dedans, qu'on se disait ouais, mais c'est une nana qui fait ça, tout, c'est pas possible. Généralement les nanas sont plus douces et tout. Ben non.
Sinon pour la petite plaisanterie, on disait tout à l'heure que Batgirl était méconnue chez nous, mais il faut quand même savoir que elle est plus ou moins associée à la stature d'Alyssa Silverstone chez nous, puisque et malheureusement dans le Batman et Robin avec le tristement célèbre George Clooney sous la cape du Cape Crusader, et ben c'était Alyssa Silverstone qui endossait le costume de Batgirl.
Ouais.
Voilà, donc c'était pour la plaisanterie.
Voilà. Ouais, Batgirl qui est, si je ne m'abuse, la fille du commissaire Gordon.
Alors dans le film, c'était la nièce ou la cousine de Alfred, mais bon.
Du côté bande dessinée, hein, du côté comics, c'est plutôt la fille.
D'accord, la fille de Gordon.
Voilà, okay. La fille du Gordon. Ok. Donc ça, ce sont les numéros. Alors le Batman Saga est sorti. C'est un bimestriel. Il est sorti quand même au mois de mai, mais on le trouve encore. Il n'y a pas de problème. Hein. Le prochain numéro doit sortir vers la mi-juillet. Voilà donc pour ces deux comics en kiosque, le Batman Saga, c'est tout neuf, et donc le Spider-Man 149.
Petit morceau musical ou on enchaîne direct?
Ah oh ouais, petit morceau allez, musical, allez.
Allez, de retour dans le supplément week-end, après cette interruption musicale, on retournera aux comics tout à l'heure, mais avec les albums, là on est dans les albums bande dessinée, mais c'est pas du comics, c'est de la bande dessinée française, avec le retour des chroniques sur l'éditeur Ankama, avec une spéciale aujourd'hui sur l'univers Dofus et Wakfu, qui sont avant tout au départ un jeu vidéo en ligne, sur ordinateur. Et donc l'univers Dofus et Wakfu, bon voilà, on vous en parle souvent, c'est un système de classe, de personnages. Et donc dans Dofus, Donc on suit les aventures du jeune Arty, qui est un jeune garçon aventurier, mais en réalité un dragon très puissant lorsqu'il perd le contrôle de lui-même, et qui fait équipe avec Vald, un yop bagarreur. Alors un yop, c'est l'équivalent des gros bourrins dans la série. C'est un yop, c'est un bagarreur qui réfléchit pas trop et qui va chercher la bagarre par tous les moyens. Donc Vald, qui est un yop bagarreur un peu gaffeur, un peu rigolo, c'est le ça fait un buddy movie assez sympa, mais qui en fait il n'est autre que le redoutable Dark Vlad, exterminateur en masse. C'est un gros psychopathe, on dirait un vampire des Carpates. Il parle que par en phonétique, donc c'est très très dur de lire les bulles quand il s'exprime. Mais également, en fait c'est pas juste un schizo de personnages, il a trois personnages en lui, puisque c'est également le légendaire guerrier Gultar le barbare. Gultar, appelé aussi Gougou pour les intimes, toujours fringant malgré son millier d'années. Et justement dans ce tome 17, alors j'ai amené le 16 et le 17 ici, très drôlement intitulé. Alors la spécialité de la série Dofus, c'est qu'il y a plein d'humour parodique dedans, vous retrouvez plein de références et tout. Il y a même le guide des références par les auteurs en disant tiens, il y a un niveau easy, moyen et hard. Alors pour les hard,
oui, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est pas trop difficile pour le type qui arrive, qui a pas vraiment une culture fantastique, mais qui a envie quand même de lire ce genre de truc, il se trouve pas un petit peu trop perdu? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de lâcher au bout d'un moment en se disant ouais non, mais il y a des références que je comprends pas, c'est pas la peine?
Alors les références sont très discrètes et c'est plutôt dans des backgrounds de cases à un moment donné ou au détour d'une réplique. Mais sinon au niveau des looks, il y a aussi des références, mais ça, j'y viendrai tout à l'heure, mais c'est pas gênant si on les connaît pas. Après c'est un plus. Par exemple, il y a dans les premiers tomes, entre le tome 3 et le tome 6, il y a une gigantesque course, c'est la course de Dragodend, et puis dedans t'as des sosies de Mario, on voit que c'est du Mario Kart tout craché. Mais ça s'adresse aux gamins, donc forcément ils ont joué à Mario Kart. Si t'as pas joué à Mario Kart, la course est de toute façon rigolote. Après tu dis bah mais attends putain, ce nom ça me dit quelque chose. En fait ils inversent des lettres et ça fait des allusions à d'autres personnages connus de la culture jeux vidéo manga, sachant que les auteurs c'est les trentenaires. Le dessinateur Ancestral Z est particulièrement friand de séries B voire Z et de plein de séries à la con, presque oubliées, très vieux jeux. Donc des fois c'est plutôt en mode art ces références là. Et alors tous les titres c'est que des jeux de mots. Alors par exemple le tome 17 s'appelle le Ploc des Titans. Et dans ce plot des Titans, voilà, c'est le dieu des bourrins, Yop en personne, qui s'aperçoit qu'il a mis au monde un rejeton. Alors normalement, les dieux n'ont pas le droit de s'accoupler entre eux. Et il s'aperçoit que il s'est accouplé avec une nymphe du dieu Sadida, qui est le dieu, on va dire, des gens qui sont en accord avec la nature. Donc c'est des nanas aux cheveux verts qui se baladent à moitié à poil et qui commandent aux racines des arbres et tout. Et il a, on va dire, consommé avec des nymphes, et ça a donné un démon qui a été emprisonné pendant des milliers d'années. Forcément, il y a un abruti qui l'a réveillé, pensant qu'il serait le bras droit du nouveau dieu du monde, sauf que l'autre, il en a fait une écharpe. Donc le mec, il a, voilà, le dieu, le démon, justement, ben au début il a pas de nom, donc il est appelé le Cornumolu par un autre personnage loser de la série. Et donc Yop, comme c'est lui, c'est par sa faute un peu qu'il y a ce démon qui a existé, ben il descend en personne sur Terre, il se fait mettre sa race comme c'est pas permis par cette créature. Et ce dieu Yop, donc c'est aussi le papa de Gougou, qui descend, voilà, pour mater le rejeton belliqueux. Donc là ça part en baston complète. Alors si vous voulez vous mettre à Dofus, ne commencez pas évidemment par le tome 17, vous n'y comprendrez mais que dalle, mais rien de chez rien, hein. Il faut commencer au tome 1 parce que ça fourmille de personnages. Il y a des personnages à un moment donné qu'on voit plus pendant 7 à 8 tomes et qui refont surface après. Il faut suivre. Donc c'est vrai que c'est un peu hermétique à tout nouveau fan qui voudrait s'improviser. Alors c'est vrai que ça fait peur parce qu'il y a 17 tomes. Je vous encourage à vous les faire prêter par des copains, ou alors à les lire dans les librairies genre la Fnac, debout, voilà, vous les lisez en silence et puis comme ça vous faites une idée. Si vous aimez les univers barrés avec de l'humour un peu nonsensique, où c'est un mix entre une épopée vraiment très bourrine, très baston, avec de l'humour au ras des pâquerettes, c'est vraiment une BD qui est faite pour vous. Donc voilà, Dofus 17 tomes parus pour l'instant, dans le dernier, Le Plot des Titans. Le tome 16 s'appelle Mold Invasion. Il y avait aussi un tome sur un vampire, ça s'appelait Être bien avec un vampire. Donc voilà, c'est, alors les jeux de mots, ils s'en cachent pas, c'est le plus pourri qui gagne.
Hein. Oui, ça on avait compris, hein, c'est bon quoi.
Voilà.
À partir de quel âge?
Ah, c'est à partir de, pour comprendre un peu, je pense que c'est à partir de 8 ans.
Hein. À partir de 8 ans, ouais, d'accord. Voilà.
Ensuite, donc il y a un hors-série qui est sorti, ça s'appelle Dofus la Bilbible, puisque ça reprend le nom de la d'une gelée. C'est un espèce de petit cube qui suit tout Tangoultar, qui s'appelle Bilby, et donc la Bilbible qui est la Bible de la saga Dofus. Et donc les auteurs, avec le même humour et les mêmes jeux de mots foireux, vous révèlent comment ils créent la série de bande dessinée. Donc pendant ce temps, je passe tout ça à du sport. Voilà, donc si vous aimez bien les BD un peu making of, genre l'art invisible ou l'art séquentiel de respectivement Scott McCloud ou Will Eisner, ben, ou même l'apprenti mangaka de Akira Toriyama, où il expliquait les trucs et astuces pour créer des bonnes BD, notamment des astuces sur le character design, où il y a par exemple les personnages ne doivent pas avoir la même taille pour créer de dynamisme dans les dialogues, ou des notions de cadrage, des notions comment utiliser la plume, comment la phase de crayonné, la phase de recherche, la phase de rough, la phase d'ancrage, la phase de plaquage, placement de trame. Donc c'est vrai que pour tout jeune dessinateur qui veut se mettre au manga, c'est vraiment un truc à voir. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais bon, par rapport à un manga classique de Dofus, il y en a un peu moins, mais c'est quand même assez fourni. Donc les auteurs, c'est Ancestral Z et Mojo Jojo, donc c'est les deux dessinateurs déjà aux manettes de la série principale Dofus, qui avaient aussi pondu la série Bizarre Kaoland. Et donc voilà, donc il y a plein de petites parties. Il y a la courbignole temporelle où on suit l'évolution, les rotations des équipes créatives à l'œuvre sur le manga, puisqu'il y a le scénariste principal qui est parti à un moment donné au Japon pour développer la branche animation du groupe Ankama, donc il a passé les rênes à un autre scénariste. Ils expliquent la façon de travailler entre eux, à partir de quand le dessinateur prend les rênes du projet, jusqu'à quand le scénariste travaille dessus, comment ils chapeautent l'un et l'autre le travail. Bon, ça c'est très intéressant. Alors il est conseillé de connaître un peu la série Dofus avant, mais c'est voilà, si vous voulez juste posséder un ouvrage sur la bande dessinée pour créer des mangas, c'est pas forcément utile de connaître un peu la saga Dofus avant, mais c'est recommandé, voilà.
Ouais, moi j'ai lu le truc sur l'ancrage là, où il détaille son truc, il préfère les stabilos au rotring, mais le défaut du stabilo c'est que ça s'use, enfin plus c'est fin, enfin bon c'est pas mal quoi, c'est intéressant quoi, mais enfin parce qu'il faut savoir que bon bah par exemple l'encreur c'est quand même l'un des, c'est le type qui va mettre en valeur le dessin crayonné qui est fait au départ par le vrai dessinateur, hein, il y a un dessinateur hein, généralement, dans les comics il y a un dessinateur qui fait que des crayonnés, c'est celui qui est crédité, et après l'encreur, bon bah ok quoi, c'est le type qui met ça au propre, qui met les traits noirs hein, si vous voulez, à l'encre quoi. Et c'est quand même également un type qui crée quelque chose quoi, parce que bon l'ancrage fait aussi beaucoup hein, dans la qualité du dessin, mais ça bon bah ok, peu de gens le savent, et là bon bah c'est assez intéressant d'avoir les détails techniques carrément, comment je travaille, je préfère ceci à cela, mais l'autre il préfère l'autre chose et tout, enfin c'est pas mal, c'est sympa quoi.
En plus c'est bien parce que tu vois que ce sont des gros déconneurs, mais aussi ils savent faire une pause pour se montrer très très pédago, donc ça c'est bien. Et puis pour revenir à ce que tu disais sur le gars qui fait les crayonnés, ça c'est sûr que c'est plutôt lui qui est considéré comme l'artiste, donc c'est lui qui a donné le caractère des personnages et tout, mais c'est vrai que l'encreur lui par contre il a pas droit à la faute, parce que la moindre hésitation ça se paye cash. Donc c'est plutôt ce qu'on pourrait comparer dans les orchestres, le gars qui fait la grosse caisse. Bon, c'est vrai que y a pas besoin de connaître du solfège et tout. Par contre, il fait une fausse note, ça s'entend direct. Et l'encreur, c'est pareil. Donc voilà. Donc on a besoin de la complémentarité entre les deux. Voilà. Dofus, la Bilbible, par Ancestral Z et Mojo Jojo, édité chez Ankama. Voilà. Sur les à côté de la création d'un manga. On reste de ce qu'on appelle le Crossmoz. Ça a été appelé par l'éditeur comme ça. C'est l'univers Dofus Wakfu. Wakfu, ça se déroule 1000 ans après l'ère Dofus. Wakfu, ça devait être un jeu vidéo à la base, mais hasard du calendrier et surtout retard de production monstrueux oblige. Le jeu vidéo est arrivé avec beaucoup d'années de retard par rapport à la série animée qui était déjà diffusée dans la case Ludo sur France 3. Donc, le jeu vidéo est désormais en ligne, Wakfu, et la série se dote également d'un manga. Un manga qui reprend les mêmes personnages que la série animée. C'est toujours Toth au scénario, secondé par Azra et dessiné par Saïd Sassin. Alors, voilà, on vous avait déjà parlé de la saga Dofus. Alors là, cette fois-ci, après avoir... Alors, ce tome 1 du manga se déroule juste après la fin de la saison 2 de la série animée. Donc, c'est très très bien. Ça permet pour les aficionados d'avoir une vraie suite et pas un dérivé avec des épisodes, on va dire, indépendants. Et après avoir vaincu Kill Bill, qui est le méchant de la saison 2 suite à un affrontement dantesque qui a valu à Hugo quelques vilaines blessures qui continuent d'handicaper ses pouvoirs, la confrérie de Tofu s'est dispersée à travers le monde. Mais la petite troupe se retrouve dans la joie pour célébrer l'anniversaire du jeune Héliatrope et de son frère Adamai, le dragon, puisque dans les Héliatropes, ça va par deux, il y a le petit dragon et le petit garçon. Et tous les personnages emblématiques rencontrés au cours de leurs aventures font donc leur apparition. C'est un peu le moyen de se remettre dans le grand bain. Mais malheureusement, ils seront pas les seuls à se retrouver. Alors, si ce scénario et cette entrée en matière pour relancer une série et proposer une suite qui est relativement détachée des précédentes aventures vous rappelle quelque chose, c'est pas fortuit puisque moi ça m'a beaucoup 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 fait penser au début de Dragon Ball Z où à la fin de Dragon Ball les gens partaient un peu dans leur coin, ils allaient fonder une famille et au début de Dragon Ball Z il y a Sangoku qui revient en présentant son fils, grosse surprise pour tout le monde qui se réunissent autour d'une petite fête qui va être gâchée par l'arrivée d'un méchant qui est beaucoup plus fort que les autres méchants qu'on avait déjà vus dans la série. Alors je pense que c'est une référence complètement assumée puisqu'en plus là on n'a pas le fils de quelqu'un mais on voit qu'il y a un personnage féminin très 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 connu des fans de Wakfu qui est qui a pas encore le ventre rond mais presque. Donc voilà, ça change. Il y a quelques rapports entre les personnages qui évoluent également. Alors, ces nouvelles aventures, au début, c'est autour d'un anniversaire dont tu te dis, ouais, c'est un album un peu déconneur qui dit, allez, c'est l'anniversaire, une petite aventure derrière les fagots, allez, l'album se finit avec le gâteau et on n'en parle plus. Mais en fait, non. Première partie, tu vois que c'est un anniversaire. Et la deuxième partie, tu vois, ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'est vraiment, ils te prennent pas pour un débile, c'est vraiment la suite direct de la série animée avec les mêmes enjeux, les mêmes personnages qui voilà. Après avoir fait connaissance pour ceux qui connaissent pas avec ces personnages là, tu entres tout de suite dans le vif du sujet. Alors il est comme le reste, il est conseillé d'avoir vu la série animée, mais c'est pas forcément obligé. Voilà, la première partie te présente les personnages. Il y a le radin, le vieux. Il y a la nana qui est plutôt caractérielle, la nana qui est plutôt mignonne. Le jeune Hugo qui est toujours prêt à foncer dans l'aventure. Voilà, donc il te présente les personnages. Comme ça, t'es pas trop perdu. Et alors évidemment, il y a d'autres références que Dragon Ball Z. Il y a à un moment donné, il y a un personnage qui s'appelle Chun-Li, qui a deux macarons au-dessus des oreilles. Voilà, qui est une chinoise. Voilà, vous aurez deviné l'allusion. Alors voilà, c'est toujours un dosage super bien, enfin assez efficace, je trouve, entre le toujours la dimension épique et un humour plus pipi caca. Je pense qu'il y a du potentiel dans cette série manga, surtout que on voit qu'il y a une patte qui est différente de la série animée, mais il y a pas un côté bâclé qu'on pourrait attendre d'un manga. Voilà, bah allez, on n'a pas la notre série BD, allez, on va sortir un manga vite fait pour toucher les aficionados du manga et qui regardent pas trop la télé. Mais non, c'est pas du tout ça. On respecte le lecteur, on respecte les fans de la série animée et on réfléchit en termes de cross-média. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, Wakfu tome 1, donc c'est le manga, puisqu'on parlera de la BD tout à l'heure, juste après. Ça s'appelle La quête des Dofus Héliatropes par Toth et Azra au scénario et par Sassin au dessin. C'est édité toujours chez Ankama.
All day I faced a barren waste without the taste of water. Old Dan and I, with throats burned dry and souls that cry for water, cool, clear water. Keep a moving, Dan, don't you listen to him, Dan. He's the devil, not a man, and he spread the burning sand with water.
Then can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for me and you? The nights are cool and I'm a pool, each star's a pool of water. Cool water. But with the dawn I'll wake and yawn and carry on to water. Moving, Dan, don't you listen to him, Dan. He's the devil, not a man. And he spread the burning sand with water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for me and you? The shadows sway and seem to say, tonight we pray for water. Cool water. And way up there he'll hear our prayer and show us where there's water. Cool, clear water. Keep a moving, Dan, don't you listen to him, Dan. He's the devil, not a man, and he spread the burning sand with water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for me and you? Dan's feet are sore, he's yearning for just one thing more than water. Cool water. Like me, I guess he'd like to rest where there's no quest for water.
UFMR 89.1 MHz, c'est le supplément week-end. C'était les Sons of the Pioneers en 41, en 42. Et c'est une chanson qui figure dans le dessin animé Rango.
Le film d'animation de Gore Verbinski.
Voilà,
voilà, Johnny Depp dans la voix de Rango.
Oui, magnifique, à voir absolument. On en est toujours dans les BD.
Et toujours dans l'univers Wakfu, avec cette fois-ci, ça s'appelle toujours Wakfu, mais ce n'est plus un manga, c'est une BD au format franco-belge, 48 pages cartonnées. Et donc, j'avais déjà parlé du tome 1 sur cette antenne, donc ça s'appelle Les Camas de la Soif. Là, c'est un tome 2, et en plus, ça tombe bien, puisque c'est une histoire autonome et complète en deux tomes. Donc voilà, ça c'est la suite et la fin. C'est par Isabelle Beautian au scénario, à qui on devait déjà Havre, toujours édité chez le même éditeur, et Wuye Changye au dessin, donc édité par Ankama. Nous avions laissé nos héros bien mal en point face à l'infâme musicien roublard, parce qu'il s'appelle Smith, Robert Smith, et sa horde persécutant le village de Kezako. Alors que Kira et Amalia se sont fait capturer, alors Kira c'est un petit garçon du village, alors justement c'est marrant parce que quel enchaînement, on est trop fort. L'histoire c'est un village dans le désert qui est privé d'eau.
Ouais, bah comme dans Rango, hein.
Voilà.
Et j'ai pas fait exprès, hein.
Voilà. C'est une transmission de pensée, je pense.
Ouais.
Alors que Kira et Amalia se sont fait capturer, les autres membres de la bande ne peuvent guère intervenir. En effet, les Gélutins, petite créature mignonne sous le joug de Smith et capable d'extraire l'eau de la terre, sont également très sensibles et la moindre once de violence provoque chez eux des torrents de larmes, pouvant vite se révéler très dangereux. Forcément, pour t'emprisonner, on te met au fond d'une crevasse et puis on te met tes gélutins partout, ce qui fait que s'ils pleurent trop, tu te noies. Et pour les faire pleurer, ils sont très 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 sensibles, il faut pas dire un mot plus haut que l'autre, faut pas les engueuler et surtout ce sont tous des mélomanes. Donc Robert Smith, il suffit qu'il prenne sa guitare. Eh ben, il y a l'eau qui coule. Voilà, vous avez compris, la lutte va se poursuivre sur un terrain inattendu, un terrible affrontement qui ne fera pas de quartier. La bataille musicale. Et oui, on est dans The Voice. La battle au fil des quelques pages de rigolade, le lecteur s'amusera à deviner au fil des paroles quelles sont les chansons originelles parodiées. Alors, du sport, si tu abandonnes à un moment donné le CD que tu es en train de lire, eh bien tu verras à la fin la baston musicale avec des paroles et tu te prendras à voir quelles sont les chansons d'origine parce que ça parodie les chansons.
D'accord.
Alors okay. Bon, les chansons d'origine c'est le répertoire on va dire chansons qui passe sur les ondes FM à la radio française hein,
c'est où
c'est une baston à la fin de musicale où t'as le petit Hugo qui chante contre Robert Smith avec sa guitare. Là, je te laisse retrouver les bulles pendant que je chronique l'album. Alors, on retrouve ici tout le second degré de la série animée Wakfu, toujours, hein, même si le scénariste a changé. On a des personnages emblématiques de la série qui sont plutôt en retrait, donc notamment Pimpin et Ruel. Pour les fans de ces personnages, ben, c'est pas ici qu'ils vont se mettre plutôt en avant. D'autres créatures montrent leur bouille pour le plus grand bonheur des plus jeunes. Alors les révélations des deux tomes, c'est les gélutins, bien sûr, qui ont tout ce qu'il faut pour devenir les peluches mascottes de l'éditeur. Au même titre que les toufous et les chachas, hein, si vous voyez un peu visuellement à quoi ça ressemble. Alors la mise en couleur se révèle super efficace, c'est super saturé, c'est acidulé, ça propose des jolis paysages saturés, des déserts, on a des mines à la Indiana Jones, c'est super bien fichu au niveau du rendu. Par contre, on grattera toujours même reproche que pour le tome 1, c'est le trait approximatif du dessinateur. Sur certaines planches ça va. Mais sur d'autres, on voit que le cerne est mal maîtrisé, c'est trop épais, on voit que c'est assez irrégulier, donc c'est dommage. On voit les tranches des personnages qui sont pas très, sont pas bien mis en valeur par ce trait-là. Alors peut-être que du sport, on voit qu'il sourit. Est-ce que tu as retrouvé les planches en question ?
Ouais, c'est pas, c'est vraiment bien foutu. Tout voilà. C'est vraiment excellent.
Enfin, voilà. Quoi. Alors je sais plus, est-ce que ce sont les vraies paroles des chansons ou est-ce que ce sont des paroles approchantes, mais retrouves l'air. Voilà.
Approchant, ouais, c'est ça. Quoi. Et puis en fait, il y a la rythmique du texte qui est faite pour coller avec la mélodie. C'est pas mal, c'est bien foutu. Quoi.
Voilà, donc ça, c'est plus pour les plus jeunes. Donc je crois que ton fiston avait suivi le tome 1. Donc tu veux le garder pour lui montrer la suite. Voilà, donc c'est à conseiller au mordu de Wakfu. Hein, voilà, ça, c'est une série en deux tomes. Donc voilà, on n'aura pas à se taper 17 tomes pour cette série-là. Et je vais finir par un album beaucoup plus à la pagination beaucoup plus conséquente qui s'appelle Remington. Et oui, parce que c'est une longue lignée, les Smiths. Dans le Dofus, il y a Will Smith. Dans la BD Wakfu, c'est Robert Smith. Et ici, c'est Remington Smith, ainsi que son frère Granny Smith. Voilà. voilà la BD Remington. Alors j'avais déjà parlé du premier fascicule comics puisque c'est sorti en kiosque d'abord. Remington, les aventures de Remington par Todd, toujours au scénario, et Adrian au dessin. Et cette fois-ci, c'est édité en album avec tout le premier arc qui est compilé dans cet album-là. Donc ça, c'est pas mal. Vous n'aurez pas à rattraper le retard sur les fascicules comics. Donc après Le Corbeau Noir et Percy Moll, la collection des bandes dessinées Wakfu Heroes s'enrichit d'un nouveau anti-héros, hein, avec le mystérieux Remington et son frère qui appartiennent à la race des Roublards. Alors, c'est une des catégories des personnages appartenant à l'univers Wakfu, là, les Yop, les Sadida, et d'autres, et Sacrieurs et tout, et d'autres races comme ça, et qui détroussent les fortunés pour des gros magots. Armés des redoutables armes possédées par des chouchous, ce sont des âmes damnées de l'univers Dofus et Wafu, leur conférant de grands pouvoirs. Donc les deux frères partent billes en tête dans une aventure sentant le piège et les coups vicieux dans le dos. Voilà, donc c'est deux roublards, deux voleurs qui sont mandatés par une nana qui est un peu sexy, une femme fatale qui leur dit il va falloir aller dérober un trésor chez un riche propriétaire, et pour ce faire je vous donne plein d'armes magiques pour parvenir à vos fins. Alors évidemment à la fin, alors ça se clôt pas sur la fin de ce tome là puisqu'il y aura une suite. On voit qu'il y a un énorme cliffhanger à la fin, voilà, qui nous laisse nos héros plutôt dans de beaux draps, on peut dire. Alors l'attrait de cette aventure là de Remington, ce sont deux roublards, donc ce sont des anti-héros dans le plus strict sens du terme, hein. C'est le Granny, c'est plutôt le bourrin, et Remington, c'est le vicieux qui va toujours frapper plutôt dans le dos et qui va te faire croire qu'il est mort alors qu'il est pas mort, tu vois. Donc c'est deux roublards, si t'en as marre des héros pur sang, pur jus, qui sont très lumineux, ben voilà, tu vas te retrouver dans Remington plutôt. Voilà, l'humour toujours efficace, ça se lit très vite, et puis voilà, c'est un bon esprit, T'as un peu de violence quand même, un côté un peu noir, mais bon, voilà, la violence c'est pour les plus jeunes aussi, donc bon, c'est ça passe quand même très très bien. Le premier arc, voilà, conseillé. Le dessin, voilà, dans un style comics efficace, dans qui épouse aussi pas mal de rondeur, même si les deux roublards sont plutôt dans les angles pour souligner leur côté vicieux. Et voilà, et c'est peuplé de femmes félines aux formes de chats. Voilà, donc si vous aimez les chats, si vous aimez les femmes, si vous aimez les voleurs, cette série est faite pour vous. Ça s'appelle Remington. Arc 1, ça s'appelle Huche par Toth et Adrien. Voilà. Et on clôture comme ça la rubrique bande dessinée française.
Française, bien sûr. Bah, parce que il y a du lourd qui va suivre juste après. Puis comme on n'est pas vraiment trop pressé, encore un petit morceau là avant d'attaquer le lourd. Hein.
You bragging all about the things you can do every time you make a pitch. If you're so smart, how come you ain't rich? You claim to have picked every horse that won, 'cause you know just which is which. Yes, if you're so smart, tell me how come you ain't rich? Henry built a Ford and made his pile. Woolworth used his 5 and 10. Rockefeller's wealth came from Standard Oil, and Waterman's came from a pen. You claim it all came from consulting you. Isn't that a brand new switch? If you're so smart, how come you ain't rich? You hate to do a stitch. If you're so smart, how come you ain't rich? You out for a ride on the road to fame, yet you wind up in a ditch. Mm-hmm. If you're so smart, tell me, how come you ain't rich? Hershey started with a chocolate bar, Wrigley with a stick of gum. Planters took his peanuts and traveled far. Now tell me, what you doing, chum? I've been hearing all about all your big ideas since you started. What's the hitch? You ain't never made $10 yet. Still you say you can balance the national debt. If you're so smart, how come you ain't rich?
Radio Éphémère 89.1 MHz, toujours dans le supplément week-end, toujours de la bande dessinée, mais là on passe au rayon comics. Comics, je commence par celui que j'ai pas terminé, hein, et celui dont je vais pas trop vous parler, parce qu'en fait il s'agit de Top Ten. Top Ten, scénarisé par Alan Moore, dessiné par Gina et Xander Cannon. Le tome 2, donc, qui vient de sortir, La rue nous appartient. Attention, si vous avez lu le tome 1, eh bien, vous savez très bien que la dernière page du tome 1 s'achève sur un meurtre.
Tout à fait.
Et pas le meurtre de n'importe qui, parce qu'il s'agit d'un immortel. Alors, c'est là qu'on se dit, bon, on connaît Alan Moore, donc on se dit, tout est possible avec lui, mais il s'agit quand même du meurtre, de la mort de Thor. tout simplement.
Ah oui, 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 dans et un oui. bar et avec oui, dans tous un les bar. Deux nordiques.
Voilà, ouais, tout à fait. Oui. Voilà, voilà. Et donc, eh bien, le tome 2 reprend donc la suite et l'enquête sur ce meurtre, eh bien, commence. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce tome 2. Je vais juste vous récapituler un petit peu. Top 10, en fait, eh bien, c'est une équipe de policiers. On pourrait dire que c'est un police procédural, c'est-à-dire c'est un commissariat, différentes équipes de flics, comme dans homicide, comme dans un truc traditionnel, et qui vont enquêter sur des crimes, sur des délits, sur des petites choses comme ça. Sauf que, et c'est là que c'est vraiment très intéressant, ça se passe à Néopolis. Néopolis, une ville où tous les êtres présents sont des super-héros. Il n'y a pas d'êtres humains normaux. Il n'y a que des super-héros dans Néopolis. Et donc, a fortiori, eh bien, l'équipe de policiers est également composée de super-héros. Alors, chacun a ses particularités.
Ouais, on va dire que des particularités, pour certains, c'est plutôt minime par rapport à d'autres.
C'est-à-dire que elles ne sont pas forcément exploitées. C'est voilà. ça.
Hein, oui, ou alors, c'est certain, les pouvoirs, bon, ils font un peu plus pitié que d'autres.
Voilà, c'est voilà. ça. Oui, non, mais il y a de tout. C'est-à-dire que on commence à remarquer un peu plus dans le numéro 2, on peut dire que le numéro 1, le tome 1, va dire plante bien le décor, là, histoire de bien se familiariser avec tous les héros du commissariat, avec tous les personnages principaux du commissariat, toutes les équipes, hein, et ça met un petit peu... On voit un petit peu dans quel monde on va évoluer. Et en fait, eh bien, bon, le cliffhanger qui est à la fin du tome 1 est là pour vraiment lancer l'aventure. Et donc, on peut dire que c'est Alan Moore, de toute façon. Bon, Alan Moore a déjà commis des trucs un petit peu plus dispensables, hein, il faut dire, parce que bon, c'est pas qu'il pisse la copie, quoi, mais pratiquement, hein, il est vraiment très, très,
prolixe,
mais, donc, il y a du très bon, du bon, et il y a du bon, on peut pas dire qu'il y a du mauvais chez Alan Moore.
Non, on hein, va pas dire, non.
Il y a du moyen. Ok, ouais. On s'arrêtera là. Mais par contre, là, on peut dire que c'est déjà du bon, voire du très bon,
ouais. hein,
sans problème. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, vu la culture générale que possède Alan Moore, eh bien, il se permet de dépasser le monde des comics tel que nous on l'entend, c'est-à-dire les comics américains, le monde des super-héros tel que nous on a l'habitude de les voir et qui ont été popularisés depuis pas mal d'années, depuis plusieurs décennies maintenant, au cinéma, grâce aux films Marvel et aux quelques films DC. Parce que ben il va faire appel vraiment à l'ensemble de tous les mythes qu'on peut connaître, hein, et il les mélange allègrement et tout. Et c'est pour ça qu'on a à la fin la mort de Thor, quoi, parce que tu vas voir qu'à la fin, au début du second, quand ils font l'enquête dans le bar, on retrouve toute la mythologie, tous les personnages nordiques qui composent justement, quoi. Il y a pas que Thor, il y a également Baldur, enfin tout le monde. Mais alors, traité sur un mode très très humoristique. Alors c'est un humour qui est très cinglant, hein, c'est pas du pipi caca du tout. Non, c'est pas le genre d'Alan Moore du tout. Mais par contre, bon, ben ça fait mouche à chaque fois. Alors, il reprend également les codes des comics classiques, à savoir que quand ce sont les Nordiques qui parlent et tout, quoi, il y a un petit graphisme dans les phylactères qui est un petit peu différent, comme quand Thor parle dans les Marvel, hein, c'est pareil, quoi. C'est pas les mêmes graphismes pour les mots, quoi, qu'un personnage normal. Alors ça, c'est bon, bien entendu, déjà vu. Mais ça fonctionne également. Mais en tout cas, bon, bah, on peut dire que là, il s'amuse quand même à faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est pas tellement le super-héros avec des gros fights, avec des trucs incroyables, des explosions, des trucs partout. C'est plus de l'échange, du discours, de la vanne qui fuse à fond les manettes. Des rapports humains, en fait, ce qui est paradoxal parce qu'il s'agit de super-humains, de super-héros, et même, bon, il y a des super-héros qui ne sont pas humains, hein, faut le dire, hein, même dans l'équipe du top 10, hein, il y a le chien, quoi.
Ben là, hein, c'est ça qui est énorme, c'est que Alan Moore, n'importe quel personnage de cette putain de série, chaque personnage, c'est de l'or. C'est que tu dis, mais comment on peut créer un personnage pareil? Chaque personnage pourrait, mais sans problème, avoir
absolument
sa propre série, quoi.
Absolument.
Le personnage du chien, c'est emblématique. Il a quasiment pas de pouvoir, sauf que c'est le chef du l'intendant du commissariat.
Voilà,
il a une
ouais.
chemise hawaïenne et c'est juste un chien qui a des armatures qui lui permet de tenir debout et qui parle.
Voilà.
Mais sinon, il a juste.
Oui, il a un exosquelette,
en fait. Il a l'appétit sexuel d'un chien, enfin. dit-il.
Oui.
Voilà, c'est juste un chien qui marche et qui a une chemise hawaïenne, voilà. Et puis à partir du moment où le postulat est posé, d'accord, ok. Après tu passes à un autre personnage qui est aussi une trouvaille énorme aussi. Enfin, tu vois que chaque personnage a un potentiel, chaque personnage a un pouvoir de destruction plus ou moins développé, d'autres qui sont plus en retrait à cause de leur pouvoir ou pas. Enfin, c'est voilà. En plus t'as plein. Alors c'est du Alan Moore parce que t'as plein de blagues. Ils sont fines, hein.
Oui, c'est très fin.
Par exemple, le fil rouge du tome 1, l'un des fils rouges, c'est qu'il y a un gars invisible qui pelote les culs des nanas. Et puis, alors, à un moment donné, quand ils sont sous l'eau et qu'il y a des menaces cosmiques ou des menaces qui sont vraiment très très importantes, à un moment donné, en fond, t'as des nanas qui viennent se plaindre parce qu'elles ont encore été pelotées par l'homme invisible. Donc, c'est marrant. Tu te dis, mais non, mais laissez-nous tranquilles avec ce fil rouge dont personne n'a rien à foutre. Et finalement, à un moment donné, quand il y a un vide, ça revient sur le premier plan. Et puis, ah ouais, mais on aimerait bien savoir qui c'est ce putain de mec. Voilà. Donc, c'est vraiment le talent d'écriture de ce type, quoi.
Ouais. Et également, le fait de mettre quand même, pas moins d'une dizaine de héros potentiels ensemble, ne nuit pas du tout à l'ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faire valoir, hein, ils ont chacun pratiquement une part égale, qui est la part, en fait, qu'il aurait dû, vu la hiérarchie à l'intérieur d'un commissariat tout à fait traditionnel, hein, c'est-à-dire il y a un chef, il y a un intendant, il y a un dispatcher, c'est un commissariat traditionnel.
Il y a le gars qui va en mission, plutôt un enquêteur, plutôt un impair d'inspecteur, voilà.
Mais il n'y a pas de personnage en retrait, c'est ça qui est très intéressant. Tous les personnages sont bien mis en avant. Alors, selon l'aventure, selon la situation, bien sûr, il va y avoir des personnages qui vont être mis en avant, d'autres en retrait par rapport à d'autres, mais dans l'ensemble, eh bien, ils sont tous au même niveau. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je dirais même, paradoxalement, le personnage qui est le moins intéressant, on va dire, c'est quand même Jet Boy, à savoir le chef, le patron de cette brigade, hein, oui. Qui est le vieux, qui est le super-héros qui a fait son temps, qui a une histoire pas possible, dont tout le monde se souvient, qui est un petit peu, on va dire... On pourrait le comparer à Superman, c'est-à-dire un mec que tout le monde connaît, tout le monde a su qui c'était ce mec, a su que c'était le meilleur à un moment donné, il y a des années, des décennies. Bon, là, il est plus ou moins à la retraite, on va dire, mais, ça a quand même été le meilleur moment. Et c'est lui qui, paradoxalement, à part dispatcher un petit peu, à part recadrer un petit peu ses troupes, c'est le personnage le moins actif, hein, le plus inactif, quoi, de la bande. Tous les autres, se déplacent, un petit peu partout.
Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que les pouvoirs illustrent le poste qu'ils occupent dans le commissariat. Par exemple, la médecin légiste, je crois que son pouvoir, c'est de se miniaturiser. Donc, elle va aller voir comment est mort tel mec en allant dans son corps. Etc. Donc c'est pas n'importe quel pouvoir pour n'importe quel poste aussi. Quelqu'un qui va être plus cérébral, il va plutôt avoir un pouvoir qui est plutôt la télépathie, un autre qui va être très très bourrin, il va avoir une force cosmique pas possible. Bon, là c'est lui qui va enfoncer les portes, donc c'est en raccord avec leur statut quand même.
Ah oui, non, mais c'est ficelé de manière absolument magistrale de toute façon, hein. Je rappelle quand même que c'est pas une réédition, hein, c'est une édition française. Alors c'est super beau, c'est cartonné et tout, c'est classe, quoi, il y a pas de problème. Il y a quelques petits défauts d'impression, mais enfin bon, bah ça, on n'y peut rien. Mais que l'original est quand même sorti en série en 2001. Et d'ailleurs, en 2001, c'est la série qui a obtenu l'Eisner Award. Donc, ça veut dire que c'est quand même pas de la gnognotte. Donc top 10, le tome 2, La rue nous appartient, par Alan Moore, Gina. Et Xander Cannon, c'est chez Vertigo Urban Comics, donc ça vient de sortir, mais si vous achetez le numéro 2 et que vous n'avez pas lu le numéro 1, vous n'allez pas y comprendre grand chose. Enfin, c'est-à-dire que vous allez sauter dans le train en marche. Et il va manquer quelques petits trucs, parce que le récapitulatif qui est fait dans le sommaire au début du tome 2 est vraiment très très succinct, hein. À contrario, par rapport au numéro 1, où il y a carrément des fiches explicatives qui détaillent vraiment l'histoire et les caractéristiques de chaque personnage principal. On passe tout de suite du coq à l'âne, on attaque direct avec le cadavre de Thor. Qu'est-ce qui lui est arrivé, qui l'a tué, et on peut dire que c'est C'est pas une bande dessinée grave, sombre, torturée. Il y a de la bonne humeur. Oui. On rigole. Il y a une espèce de feeling bon enfant comme ça, tranquille. C'est, on pourrait dire que bon, c'est qu'on est dans la vraie vie, tranquille, peinard. C'est la vie de tous les jours. Sauf que les personnages et l'endroit sont vraiment pas comme dans tous les jours.
Et puis contrairement à certaines BD d'Alan Moore, tu sens qu'il a une culture et que c'est dense, mais c'est pas prise de tête. Parce qu'il a d'autres BD qu'il a écrites où c'est vraiment le pavé où tu te farcis plein de la culture britannique dans la tête. Et alors là, c'est vraiment la détente. Quoi.
Oui, ça, il y a pas de problème. Il y a quand même vachement moins de références et tout. Enfin, si, il y a quand même des petits trucs et tout.
Ouais, mais ça passe mieux, c'est plus décontracté. Voilà.
C'est-à-dire que dans Top 10, plus dans le numéro 2 d'ailleurs, que dans le numéro 1, il y a beaucoup de petites allusions à des comics qu'on connaît, à des super-héros qu'on connaît et tout, quoi, où il te prend pas pour Hulk, enfin, du truc, enfin, du
déconnerie. Ouais, je crois qu'à un moment donné, dans la ville, il y a un poster derrière avec Wolverine.
Là, dans les répliques également, hein, ouais. Il commence à balancer des petites vannes et tout, avec des petites références comme ça, quoi. Alors là, bon, c'est pas évident non plus si vous êtes complètement étranger au monde des comics, des super-héros, mais on peut quand même lire le bouquin parce que bon, l'histoire et l'ensemble des personnages se suffisent à eux-mêmes, quoi. De toute façon, hein, c'est pour ça que c'est très très bien. Donc ça, c'est Top 10, donc le 10e précinct de la ville de Neopolis. Passons maintenant à du lourd, on va dire, à du burné, à du tatoué. C'est le numéro 14 de The Boys. Et puis comme j'ai pas encore retrouvé ma voix et que j'ai des problèmes de gorge et tout, je vais pas vous le faire en voix hard-boiled de toute façon. Mais enfin, c'est comme d'habitude, hein, dans un monde où des super-héros sillonnent le ciel ou rôdent dans la nuit, quelqu'un doit faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les bornes. Et ça, c'est le boulot de Billy Butcher, du petit Yogi, de la crème, du français, de la fille, les petits gars de la CIA, une équipe de gens dangereux. Ça tombe bien puisqu'ils luttent contre la force la plus dangereuse de la Terre. Terre, les Gugus à super pouvoir. Certains super-héros doivent être surveillés, d'autres doivent être contrôlés, certains parfois doivent dégager. Numéro 14. Alors, on en était resté au numéro 13, qui était un petit peu un numéro de, on va dire, de transition.
Hein, oui, c'était sur le petit Yugi en Écosse. Hein.
Voilà, c'est petit Yugi qui prend des vacances parce que bon, en fait, il a largué sa nana. Il est tombé de haut, on va dire. Par rapport à la personnalité propre de la nana dont il était amoureux, mais pour eh bien cette espèce de mensonge latent qu'il y avait entre eux, c'est-à-dire que lui mentait sur sa réelle identité et elle lui mentait également sur sa réelle identité.
Sauf que lui c'est pas au passé, il continue de lui mentir.
Voilà. Donc alors eh bien dans ce numéro 14, petit Yugi est toujours en Écosse, donc on ne le voit pas. On l'évoque à un moment donné, mais c'est tout. Hein, et ça se concentre sur le reste de la troupe. Alors, à noter quand même que je disais que le numéro précédent, était consacré à petit Yugi en Écosse, donc un petit numéro à part. Donc, ça bouge pas trop, on va dire. Il y a beaucoup de parlotes, il y a beaucoup d'échanges. On apprend pas mal de trucs. Hein, il y a pas de problème. Ça complète de toute façon ce qu'on a su auparavant. Et dans ce numéro, on peut dire que bien retour au super slip, d'accord, mais avec une confrontation entre les 7 et l'équipe de la CIA.
Là on y est là.
Mais une confrontation verbale, d'accord. Uniquement,
encore
histoire de mettre les choses au point.
Il avait déjà eu une entre le chef des 7 et Billy Butcher déjà.
Oui, mais ils étaient tous les deux. Voilà. Alors que là, c'est un groupe contre l'autre.
D'accord.
Ce qui se passe, c'est que on sent qu'il va y avoir une confrontation méga énorme très très bientôt. Pas dans ce numéro, mais ça va péter bientôt parce que les cartes seront distribuées. Les cartes sont redistribuées, pas au niveau des équipes, à savoir les 7 ou l'équipe de Billy Butcher, mais ce qui se passe au-dessus. Et là, la donne n'est plus tout à fait la même. Des personnes ont changé, on remplace d'autres. Bon, c'est normal pour cause de décès, on n'en dira pas plus. Hein, mais c'est pas forcément bien pour l'histoire des 7 ou pour l'histoire de la bande de Billy Butcher. Il y a un retour qui fait quand même vachement plaisir. On l'avait pas vu depuis plusieurs numéros.
Ah, c'est Boudin d'amour.
Ouais. Non, pas Boudin d'amour, c'est Rainer, la directrice adjointe de la CIA.
Ah, mais oui, forcément, ça va encore avoir des confidences sur le bureau, peut-être.
Oui, mais là, ben, on est resté sobre au niveau de l'illustration.
Oh.
Hein, c'est tout dans le texte et les rapports changent aussi. C'est assez rigolo entre elle et Butcher. Et Butcher, paradoxalement, apparaît un petit peu moins dur par moment, apparaît plus mélancolique, un peu, on sait pas quoi. Il y a quelque chose qui le turlupine, mais on ne saura pas quoi. On sait pas quoi. En tout cas, très très fouillé quand même, comme très dense, on va dire, avec bon bah quand même sa part de trucs un petit peu heavy, un petit peu trash. Quand même, hein, il y a quand même du dégommage en règle, il y a quand même de la cervelle qui gicle, du sang, ça, bon, bah, il y en a un petit peu quand même. Il y a pas de problème, c'est pas l'essentiel, hein, et c'est bien la force d'ailleurs de Garcenis d'agir comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il avait commencé très fort avec un numéro 1 qui explosait tout, avec une outrance, mais alors
qui allait numéro
très
2,
très loin,
ouais, avec la météorite là,
oui, ça allait vraiment très très loin, hein, le premier avec l'équipe de super-héros complètement pourrie, pervertie, comme c'était pas possible. Numéro 2 avec le super paladin, là, la réplique de Batman, on va dire, hein, oui. Faut dire ce qu'il est, quoi, y a pas de problème. Là, on construit au fur et à mesure toute la mythologie, on continue justement, quoi, à explorer un petit peu cette mythologie et justement les tenants, les aboutissants de tout ce beau monde. Bref, c'est tout à fait passionnant, hein, y a pas de problème et ça va continuer encore pas mal de temps d'ailleurs, hein, parce que bon, on en est au numéro 52, hein, parce que bon, bah, c'est chaque fois des petits dans chaque numéro de la version française. Eh bien, en fait, c'est 4 fois 4 épisodes, hein. Il y a 4 épisodes dans chaque numéro, et comme il doit y en avoir 74, on en est à 50, donc vous faites le calcul, il en reste encore, on va aller jusqu'à 20, 22, quoi, donc ça va être
assez
rigolo.
J'ai vu que Panini avait sorti la version solide en anthologie aussi.
Ouais, tout à fait, quoi, on en reparlera. De toute façon. Voilà, donc c'est The Boys, préparation propre et planification. Numéro 14, donc paru chez Panini Comics, pour lecteurs très avertis. Hein, là, on fait pas dans la dentelle, je vous préviens. Alors, à noter également que ce n'est plus Darick Robertson qui continue à faire les couvertures, mais par contre, ce n'est plus lui qui dessine, c'est Ross Brown. Ross Brown qui avait déjà fait le numéro Érogasme. Et on sait qu'il y avait également John McCree qui a fait le 13, c'est-à-dire Bienvenue chez le Petit, hein, le dernier en date, le petit Yugi en Écosse. Contrairement à tous les autres qui ont été pratiquement tous dessinés par Darick Robertson, il y a juste un ou deux numéros où il y avait un épisode qui était dessiné par un type différent. Mais sinon, là, c'est Ross Brown. Alors, le graphisme, globalement, ne change pas tellement, hein, de toute façon, quoi. On s'y retrouve, de toute façon. On voit un petit peu les petites différences qu'il peut y avoir, hein. Mais bon, fondamentalement, quoi. On retombe dedans tout de suite, hein, dès la première page et tout. Pour ceux qui ont lu les 13 premiers, hop, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans le bain. The Boys, donc, préparation propre et planification, numéro 14 chez Panini Comics. Passons maintenant à... Oui, tu crois? Allez,
respire un peu, ouais.
Ouais, ouais. Bah attends, parce que j'avais rien calé là, tu vois.
Ah, mince!
Fais comme ça.
If I could be you, and you could be me, for just 1 hour. If we could find a way to get inside each other's mind. If you could see you through my eyes, instead of your ego, I believe you'd be surprised. Walk a mile in my shoes.
89.1 MHz, retour à Supplément Week-end et aux comics américains avec Kick-Ass 2 par Mark Millar et John Romita Jr. On prend les mêmes et on recommence. Alors, on s'en était arrêté à Kick-Ass avec le premier tome qui était sorti avant le film, puis le deuxième tome juste après le film, ce qui n'empêchait pas de lire la BD parce que bon, c'était la même histoire, mais le traitement était un tout petit peu différent. Donc ça passait vraiment comme une lettre à la poste. Et c'était quand même la bande dessinée qui cartonne à fond les manettes. Et on s'est dit, voilà, c'est bon, la messe est dite, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Sauf que, vu le succès qu'a remporté quand même le film, succès critique, commercial, je pense que ça a dû le faire aussi. C'est pas un film qui a coûté vraiment énormément cher dans le prix que coûtent les films actuellement, c'est une affaire qui roule. On aurait pu en rester là et se dire putain, ça c'était quand même vachement bien, c'était nickel, hein, one shot et puis hop, on n'en parle plus. Maintenant, Mark Millar a la suite dans les idées et vraiment c'est très très intéressant parce que il a décidé de faire un Kick-Ass 2 et pour continuer dans cette veine, il a dit ok, pour raconter une bonne histoire et tout, de toute façon, il faut que ce soit fait en trilogie, donc il y aura une partie 3. Alors, si dans la première partie, on apprend qui est Kick-Ass, la construction d'un super-héros sans pouvoir, parce que c'est leur particularité dans Kick-Ass, hein, ce sont des gens qui se disent ouais, je vais me déguiser en super-héros et tout, mais ils se prennent des lattes dans la gueule, ils se font satonner et tout parce qu'ils ont pas de pouvoir, hein, forcément quoi, quand ils tombent sur vraiment des bad guys, des fois ça se passe très mal. On apprend un petit peu à connaître un petit peu les personnages principaux, à savoir Kick-Ass, hein, David Lizeski, qui fait la rencontre de Hit Girl, qui elle a vraiment des pouvoirs, enfin qui est vraiment une guerrière surentraînée et suréquipée.
Une petite ninja de poche, ouais.
Une petite ninja de 11 ans qui dépote à fond les manettes, et le méchant qui est le papa de la mafia, donc, et son fils Red Mist qui au départ fait copain avec Kick-Ass, mais en fait il s'avère qu'il joue un double jeu. Bon, l'histoire vous la connaissez si vous avez vu Kick-Ass le film ou si vous avez lu les deux premiers Kick-Ass. On reprend les mêmes et on recommence, mais par contre là, on est un tout petit peu plus sombre quand même, il faut le dire, hein. C'est un petit peu, c'était déjà bien hard-boiled dans le premier, c'est-à-dire au niveau des images, au niveau des scènes de violence, le sang qui gicle et tout. Je sais pas si tu te rappelles la fameuse double page avec le type qui se fait découper en deux sabre.
Ouais.
En double page, pas de problème et tout. On a encore de la double page qui dépote.
Ah ouais, d'accord.
D'accord, ok. Hein, mais par contre, c'est nettement plus sanglant. C'est-à-dire que ça dépote encore plus et ça va encore... je veux dire, ça, c'est encore plus dégueu parce que, bon, bah, là, je vais pas tout révéler, quoi, mais enfin, bon, bah, il y a même d'innocents petits bambins qui passent.
Ah bon? Donc, carrément, d'accord.
Oui, ouais, c'est-à-dire un pas est franchi. Un pas est franchi. Mais pourquoi? Marc Millar s'en explique en disant que dans le premier, dans la première mouture, le Kick-Ass originel, eh bien, on suit et on est en empathie avec les super-héros, avec les héros de la série, mais qui sont des bons, qui sont animés de bons sentiments, hein. Dans le deuxième, eh bien, on va plutôt suivre ceux qui sont animés de très mauvais sentiments. Et donc, il y a dans ce premier tome, Restez groupé, du Kick-Ass 2, une première partie où Dave Livesky, eh bien, va être rejoint par d'autres personnages semblables à lui-même, c'est-à-dire qu'ils veulent être des super-héros mais qui n'ont pas de pouvoir, et ils vont former une ligue, à l'instar de la Ligue des Justiciers, hein, ou des Avengers, quoi, c'est-à-dire une équipe de super-héros, et qui va s'appeler Justice Forever, Justice Éternelle. Et donc, bah, ils vont, pareil, sillonner les rues et tout, et puis essayer de restaurer l'ordre, on va dire. Ils font également les soupes populaires, ils diffusent également les affiches pour les personnes qui sont disparues. Bref, ils font œuvre de salubrité publique. Sauf que, eh bien, le fameux Red Mist qu'on avait délesté et qui avait échappé à la tuerie chez son papa où tous les mafieux avaient été dégommés, deux mafieux d'ailleurs qui n'ont pas été dégommés rejoignent la justice éternelle parce que juste après cette tuerie, cette boucherie, on va dire, assez incroyable, chez le caïd Genovese, eh bien, ils décident de devenir chrétiens, ils se rangent des ordres et tout, et ils reprennent un petit peu de truc en disant bon bah ok, on va se mettre du côté des bons, donc on rejoint la ligue de la justice éternelle. Sauf que, eh bien, va arriver Red Mist qui s'est barré hein, pendant ce fight parce que bon bah Kick-Ass sait très bien qui l'a trahi hein, parce que bon il s'agit d'une histoire de trahison dans le premier, et Red Mist va se mettre au vert, mais très très loin. Dans un pays de l'Est, on dit un pays de l'Europe de l'Est, on ne dit pas, Marc Millar ne précise pas lequel, et il va revenir, mais il va pas être tout seul non plus, il va revenir en groupe. Et là, ça va être vraiment des très 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 gros méchants, très vilains.
Bien dégueulasse.
Vraiment, vraiment, vraiment très très vilains. Et bon, on peut dire que Marc Millar fait encore plus fort, je pense, dans ce truc-là que dans le premier, parce que la construction est va crescendo comme ça, mais avec un point d'orgue final qui n'est pas un point d'orgue final hein, c'est un cliffhanger hein, ok, la dernière page, d'accord, avec un cliffhanger qui bon bah qui est toujours bienvenu. Bon bah ça c'est le talent des bons écrivains, des bons scénaristes hein, c'est de savoir vouloir pousser le lecteur à attendre ce qui va suivre avec vraiment beaucoup d'impatience. Là c'est vraiment le cas, et ce qui fait que au niveau de l'écriture, je pense que il est installé maintenant dans ses personnages dans ce monde là donc il arrive un petit peu mieux à maîtriser. Il y a moins besoin de grosses scènes bien baston à un moment donné quoi, pour remonter un petit peu quoi l'attention du lecteur, pour retomber après un petit peu. Là ça va uniquement crescendo crescendo crescendo, et ça termine par un truc assez incroyable. Bref, c'est de la balle quoi, il y a rien à dire.
Alors le Kick-Ass 1 était en deux tomes, est-ce que le Kick-Ass 2 est en
c'est
deux
pareil
tomes
alors c'est pareil hein, il y a deux tomes pour le Kick-Ass 2 et probablement il y en aura deux pour le Kick-Ass 3. Enfin ça il faudra attendre je pense l'année prochaine ou dans deux ans hein. Donc ça pareil, donc c'est paru chez Panini Comics. Alors il y a également beaucoup de références, alors là il y a des références à la culture urbaine actuelle hein. Alors c'est ça, c'est très intéressant. Alors à noter que dans ce Kick-Ass 2 en couverture bien sûr c'est Kick-Ass avec Mindy, c'est-à-dire la petite Hit Girl, mais qui n'apparaît pas sous sa forme Hit Girl dans ce premier tome.
Et en civil.
C'est-à-dire que à la fin, eh bien, elle a été recueillie par son père est mort. Elle a été recueillie par l'ex-collègue de son père, le flic Black, hein, qui, comme elle a plus de parents, eh bien, il faut qu'elle soit élevée par quelqu'un. Et on la voit d'ailleurs aller à l'école à la fin du premier et tout quoi. C'est-à-dire avoir de nouveau une existence normale. Et elle va garder cette existence normale tout au long de ce tome. Elle a quand même quelques petits rapports avec Kikas, avec Dave Lizeski, mais juste pour l'envoyer chier, quoi, parce que lui, il dit ouais, rejoins notre groupe et tout, mais non, papa veut pas que je sorte et tout, donc et bon, il y a quelques, tu suis quand même un petit peu sa vie, mais tu te rends compte tout de suite, hein, là, il met bien le point dessus et c'est vachement bien foutu. Sur le fait que bon bah ok, elle est bien, elle va à l'école, elle a ses petites copines, elle a une vie normale, d'accord, mais il lui manque quand même quelque chose. Bon, elle est assez forte mentalement pour tout de suite replonger, donc c'est pour cela qu'on ne la voit pas dans le dans ce premier tome du Kick-Ass 2. On la voit uniquement dans son dans sa vie normale traditionnelle avec justement le garde-fou qui est son beau-père ou son tuteur, on va dire, hein, le flic qui a sa charge depuis que son père, interprété par Nick Cage dans le film, est décédé dans le précédent Kick-Ass. Mais ça laisse augurer justement dans le deuxième tome un retour de Hit Girl qui va être vraiment, je pense, pas piqué des hannetons, parce que vu ce qui s'est passé vers la fin de ce, et vu le retour de Red Mist avec sa bande et toutes les exactions qui ont été commises, bon bah même le lecteur moyen se dit, il faut, c'est pas possible, quoi. Non, c'est trop, quoi. C'est outrancier, non, faut pas déconner, quoi. Il y a des limites qu'on ne franchit pas en principe. Si, bah, les limites sont franchies allègrement, il n'y a pas de problème. Et donc, eh bien, il va falloir qu'il y ait un vengeur, hein, qui revienne. Et là, bah, apparemment, à la fin de ce premier tome, la seule personne qui apparaît comme étant capable de remettre les choses à l'endroit, eh bien, c'est Hit Girl. Donc, on attend vraiment le tome 2 de Kick-Ass 2. Avec impatience, ce premier tome, donc restez groupés, est sorti chez Panini Comics, comme d'habitude, dans toutes vos librairies favorites. Et on passe du coq à l'âne directement, parce que on n'est pas loin d'aller jusqu'à 14h. Hein,
Oula,
hein, tu vois, quoi. Alors,
on va accélérer, alors.
Directement, la télé avec les films à la télé.
Non, on est très fort en enchaînement, puisque tu parlais de ta son cinéma, de Kick-Ass, et voilà. On y est.
Ouais. Alors donc, quelques petits trucs assez rigolos, quand même, des programmations, on va dire, anormales, on va dire. D'accord, tu vas comprendre pourquoi.
De l'anormal.
Alors ce soir, sur Canal Plus Cinéma, à 23h30, Détective D, le mystère de la flamme fantôme.
Qui est certainement l'un des Tsuyark les plus abordables par le grand public. Voilà. Qui a été, selon moi, surestimé quand il est sorti au cinéma l'année dernière. Ça reste un bon petit film d'aventure, mais le bonhomme est capable de beaucoup, beaucoup mieux. Avec quand même Andy Lo,
Carina Lo,
Tony Leung, Carfai,
ouais.
Voilà, t'as des bastons, t'as des chorés quand même dans Seul Lion Kong Yon, le secret. Non, ça va, il y a quand même des bons trucs, mais bon, voilà, pour les connaisseurs. Ah, c'est mi-fig, mi-raisin quand même.
Voilà, alors bon, c'est une histoire de détective, mais ça se passe en costume, hein, c'est en l'an 690, avec l'impératrice qui délègue un détective qui va être chargé d'une enquête périlleuse. Sur RTL9 à 20h40 ce soir, donc un super western, c'est Führer Apache de Robert Aldrich, avec Brut Lancaster, Joaquin Martinez qu'on voit également dans un film sorti un an ou deux ans plus tôt, à savoir le Retour des Sept Mercenaires, où c'est le deuxième personnage principal après Yul Brynner, en fait le seul qui reste de la bande du Magnificent Seven, le premier, donc et qui est un excellent acteur. Donc il y a également Bruce Davison et Richard Jekyll. Donc dans cette histoire entre indien et cowboy et tout, mais c'est vraiment très hard-boiled quand même, hein, pour même pour l'époque, et c'est un petit peu le pendant, on va dire, c'est pas vraiment la suite, mais c'est un petit peu le pendant de Bronco Apache qu'il avait réalisé Aldrich 20 ans auparavant pratiquement, quoi. Mais c'est vraiment un très très bon western. Sur Ciné Plus Star ce soir à 20h40, Hotspot de Dennis Hopper, avec les magnifiques et vénéneuses et sensuelles Virginia Madsen et Jennifer Connelly.
Ah oui.
Qui ne font qu'une bouchée du pauvre Bon Don Johnson. On a les boules pour lui dans ce film, quoi, au bout d'un moment, quoi. C'est donc sur Ciné Plus Star ce soir à 20h40. Il y a également sur Disney Ciné Magic à 20h45 Les Copains dans l'espace de Robert Wintz, avec Bill Fagerbeck. Mais en fait, le vrai héros du film, c'est le boule terrier qui est le capitaine et de la mission qui doit partir sur la Lune. Voilà, c'est ce soir sur Disney Ciné Magic. Alors, la surprise, c'est demain quand même, hein, sur Arte demain soir, une thématique consacrée à Michael Jackson.
Soirée.
Avec This Immortal World Tour à 20h40, qui est une, qui est un spectacle qui a été donné, qui a été fabriqué par la compagnie du Cirque du Soleil et par au moins une dizaine de chorégraphes et tout pour mettre en scène, on va dire, l'ensemble de l'œuvre de Michael Jackson, à suivre quand même, suivi à 22h05 du film de Sidney Lumet en 78. C'est un musical, c'est The Wiz, qui est la ressuscité du Wizard of Oz, de Victor Fleming en 39. Mais là, c'est la version musicale avec Diana Ross, Michael Jackson, Richard Pryor. Bon, l'affiche est séduisante, alléchante. Le film, un petit peu moins, on va dire. J'ai jamais pas trop apprécié ce film, même quand il était sorti. Et bon, même à la revue, au revisionnage, bon, je sais pas, il y a quelque chose qui marche, il y a un truc qui marche pas bien. Michael Jackson, de toute façon, à cette époque, est encore vachement bridé. Il n'y a pas de problème. Il a été pris, Diana Ross l'a pris sous sa houlette et tout. On ne sait pas ce qu'elle a fait avec lui.
Il a jamais été bridé, il a été noir.
Oui, non, mais bon, ouais, bon, ok.
Pardon.
Mais ça regardait quand même, pour les fans de Michael Jackson. De toute façon, il n'y a pas de problème. Sur Ciné Plus Frisson demain, par contre, une petite trilogie Matrix, donc qui vous prend 7h, quoi, de 20h40 à 3h15 du matin. Enfin bon, ça vaut toujours son pesant de cacahuètes.
Très bien.
Ça vieillit un tout petit peu, ça, il y a pas de problème, mais ça reste très bon.
Surtout le premier a vieilli parce que tu vois qu'il fonctionnait essentiellement sur certains effets, alors que les deux autres fonctionnent quand même malgré des, ils ont pas tout tablé sur les effets en question, quoi. Même si après ils ont les qualités de leurs défauts, on peut ne pas aimer ou pas, mais en tout cas il ne faut que reconnaître l'ambition du scénario et des deux metteurs en scène qui sont devenus frères et sœurs depuis.
Sur Ciné Plus Club demain soir également, Tamara Drew de Stephen Frears avec Gemma Arterton, Georgie Alam et Bill Camp, dont Xavier avait chroniqué la bande dessinée
De Pussy Simmons.
Sur TCM, Le Danseur du Dessus de Mark Sandrich en 1935 avec Ginger Rogers et Fred Astaire, la rencontre improbable entre un danseur et puis sa voisine qui se plaint du bruit et tout, quoi. Il s'avère que c'est une super danseuse et lui justement il cherche une nana pour danser avec lui.
Ah, ça tombe bien.
C'est magnifique, c'est superbe. Ouais, c'est l'époque où Fred Astaire n'est pas encore trop connu, on va dire, c'est pas la grosse vedette qu'il est devenu par la suite, 5-6 ans après. On n'est pas encore dans la période dorée de la comédie musicale filmée américaine. C'est un film en noir et blanc encore, pour l'époque, mais par contre ça vaut quand même le coup parce qu'il y a quand même deux scènes de danse en particulier qui sont absolument assez incroyables, quoi. Je n'en dis pas plus. Sur Action, demain soir également à 20h40, La Rivière de la Mort de Steve Carver, c'est un mec qui a aussi fait des films d'horreur, il me semble, quoi. Je me rappelle pas lesquels, j'ai pas eu le temps de chercher. Mais en tout cas, avec la distribution qu'il y a dedans, faut y jeter un coup d'œil. Michael Dudikoff, en aventurier, qui va rechercher un savant fou perdu dans la jungle.
C'est pas mal.
Interprété par Donald Pleasance.
Ah, oula.
On peut y jeter un coup d'œil. Alors, lundi, sur France 2, à 20h45, c'est le dernier épisode de la série, de la saison Cold Case, saison 7, ça s'arrête, et là, c'est l'épisode 22. Alors, si vous avez loupé l'épisode de la semaine dernière, car c'est une histoire en deux parties, eh bien, sachez que la sœur de Lily Rush est de retour, celle qui, chaque fois qu'elle arrive, elle fout le bordel, elle fout le why et tout, et là, ça change pas. Sauf que c'est elle qu'il va falloir rechercher, parce qu'elle a complètement disparu. Et donc, bon, je pense que ça va bien s'achever. Enfin, pas forcément pour les personnages, mais comme c'est une série qui a toujours été d'une excellente facture, malgré quelques épisodes un peu plus faibles que d'autres, bon, la continuité, moi, je trouve, et la richesse, on va dire, entre guillemets, des personnages de l'ensemble du groupe fait que, bon, c'est quand même une bonne série. Haut de gamme, même si c'est du Bruckheimer, même s'il a pompé cette série, le concept original sur une série canadienne. On va passer outre parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est une série qui a énormément de qualité. Ça fait plusieurs semaines, je crois, depuis le début du mois de juin d'ailleurs, mais comme on l'a fait plus ou moins des émissions où il n'y avait pas trop de télé, où il n'y avait pas d'émission du tout, j'ai pas pu vous en parler, mais depuis le début du mois de juin, Arte nous fait une thématique et nous passe l'intégralité des œuvres de Rainer Werner Fassbinder, et donc on a pu voir des œuvres plus connues la semaine dernière et tout. Là, bien, il s'agit vraiment d'œuvres pas trop connues de lui et très très anciennes. Le Effibriste, donc lundi à 20h35 de Fassbinder avec, on va dire, ses acteurs fétiches. Anna Chigoula, hein, qu'on retrouve dans au moins 5 ou 6 de ses films, et encore, je dois être un petit peu en deçà du nombre exact, Wolfgang Schäck et Uli Lemmel. À 22h30, L'amour est plus froid que la mort, hein, Fassbinder de 69, et son premier long métrage, c'est un polar, avec Uli Lemmel encore et Anna Chigoula. Et ça se termine à 0h20 avec un petit court métrage de Fassbinder qui dure 10 minutes, donc loupez pas, hein, qui s'appelle Le Clochard, réalisé et interprété par Fassbinder. Donc ça, c'est à 0h20, c'est lundi sur Arte. Sur lundi, sur Paris Première. Alors, je vais te raconter un truc qui va te faire rigoler, parce que lundi dernier, justement, après Cold Case, quoi, je me suis mis à zapper un petit peu et tout, et à un moment donné, je tombe sur... j'arrive sur Paris Première et je tombe sur un truc où je me suis vraiment posé des questions, parce que sur la petite case où tu peux... qu'est-ce qui est diffusé en ce moment et tout, quoi, avec l'incruste où t'as les détails et tout, quoi, du film et tout, avec les trucs, je vois marqué Le Bêtisier de Paris, et alors je tombe sur une scène mal doublée, avec un mec qui est sur une nana, et puis bon, ils sont pas trop habillés, et puis hop vas-y. Alors je me suis dit, Le Bêtisier de Paris qui s'amuse à montrer que les films porno des années 70 étaient mal doublés, que c'était n'importe quoi, que c'était mal filmé et tout, quoi. Et en fait, non, pas du tout, puisqu'il s'agissait, et ça, je m'en souvenais pas du tout, quoi, de cette scène, il s'agissait de Super Vixens. Donc, le chef-d'œuvre, quand même, de Russ Meyer.
T'étais content, alors.
Eh ouais. C'est quand j'ai mis en version originale que je me suis rendu compte que bon, bah, ça passait quand même vachement mieux en version originale. Il n'y a pas de problème, parce que vraiment, le doublage est pourri de chez pourri, hein. Je crois que les doubleurs des films de cul font mieux, même, pour te dire, quoi. Par contre, lundi prochain, Ultra Vixens. Donc, on passe du coq à l'âne, hein, c'est-à-dire du premier de la série des Vixens au dernier de la série des Vixens, sorti en 79. Alors, bon, celui-là, c'est pas franchement une réussite, hein, il faut dire ce qui est. Bon, par contre, pour ce qui est de la grosseur des protubérances mammaires de ces jeunes filles, ben, ça va, c'est encore mieux. C'est ok, quoi. On peut pas faire mieux, je pense, quoi. Ou alors ça doit être très dur pour le cou et le dos des nanas, quoi. Quoi. Y a pas de problème. Par contre, bon, c'est pour admirer la plastique de Kitten Natividad, d'Anne-Marie ou de June Mack. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais autant dans Super Vixen, si tu veux, c'est une histoire qui est construite. Et bon, c'est l'aventure du héros. Le mec qui se fait baiser la gueule à chaque fois. Enfin, il tombe de Karim Ancilla. Mais chaque fois, il rencontre des nanas et tout, quoi. C'est une espèce de road movie, en fait, hein, puisque bon, au départ du film, il s'engueule avec sa nana, et puis malencontreusement, on va dire, elle le fout à la porte et tout. Lui, il va picoler un coup. Pendant ce temps-là, le flic, interprété par Charles Napier, quoi, va la voir et tout, et puis bon, va la dégommer, quoi. Mais de façon très très trash. Bon, pour l'époque, c'était hyper trash, hein, y a pas de problème. Hein, c'était vraiment les trucs que bon, on disait, c'est d'office interdit au moins de 18 ans, pas pour les scènes de. Où tu vois les seins qui ballottent, mais parce que bon, au niveau de la violence, ça allait vraiment aussi très très fort. Autant c'est une histoire qui se tient du début jusqu'à la fin dans Super Vixen. Hein, ok, bon, évidemment, quoi, les films sont faits pour regarder les scènes fameuses où les nanas dansent sur de la musique et tout, et donc un
ça
petit,
bouge bien,
donc un petit une petite culotte, quoi. Encore des fois, elle l'enlève. Autant dans Ultra Vixen, pardon, c'est une suite de scènes, quoi, qui, n'ont pas trop de rapport l'une avec l'autre. Bon, hein, à voir si vous avez déjà vu les autres. Hein. Mega Vixen est déjà quand même vachement mieux, hein, qui est sorti un petit peu avant, 74, me semble-t-il, quand même vachement mieux que ce Ultra Vixen. Donc ça, c'est lundi à 22h55, donc sur Paris Première. Sur TMC, Trax sans merci de Jeff King avec Steven Seagal et Augie Digna en 2008. Laissez passer, c'est pas la peine. Sur Energy 12, soirée Steven Seagal avec tout d'abord à 20h35 Mercenary de Don Fauntleroy, c'est pareil, laissez passer avec là il est avec Jacqueline Lord. Par contre à 0h15, ils nous mettent Dangerous Man de Keoni Waxman Johnny Waxman qui réalise maintenant avec lui les Trous Justice, hein, qui est le réalisateur attitré des Trous Justice, la série de Seagal. Par contre, celui-là, bon bah, il y a rien à voir. Mais au milieu, ils ont foutu Justice Sauvage. Donc,
ah bien.
Donc bon bah voilà, qu'on peut se dire là, ça vaut le coup quoi de se revoir et tout. La scène dans le bar où il dégomme les mecs et tout avec William Forsythe, enfin bon, il y a des morceaux de barbou dans ce film dont on se souvient toute sa vie, ça, il y a pas de problème. Donc ça c'est sur Energy 12 lundi et sur Syfy à 23h45, c'est un inédit hein, à la télé, hein, du moins à la télé française, Killer Shark, les requins sont de retour de Griff First avec Choupette, Christy Swanson et D.B. Sweeney. Lundi, là on fait plus dans le film de genre, dans le film sérieux on va dire, sur Ciné Plus Star à 20h40, c'est soirée musicale, films musicaux avec tout d'abord Nashville Lady, le film de Michael Apted. Ça raconte la vie de Loretta Lynn, une chanteuse country, qui était vachement copine d'ailleurs avec Patsy Cline. Et bon, elle a eu la chance de continuer à vivre parce que Patsy Cline est morte dans un accident d'avion avec Cowboy Copas. Et puis il y en a même troisième au début des années 60, je crois en 62 ou 63. Le film est vraiment très très bien. C'est Sissy Spacek qui interprète le rôle. Et vous y verrez un Tommy Lee Jones qui est pas aussi buriné qu'il l'est maintenant, quoi. Ça y est, pas de problème parce que c'était en 1980. Ah ouais. Il y a également après Nashville Lady, bon, faut aussi un petit peu aimer la musique country, quoi. Ça c'est clair. Et surtout la musique country lénifiante, tu sais quoi, l'espèce de des trucs bon que peu de gens aiment, on va dire, même moi.
Ah ouais.
Alors à 22h45, c'est The Doors, toujours sur Ciné Plus Stars lundi, le film d'Oliver Stone, donc qui a ses qualités, ses défauts, il y a pas de problème.
Oui, avec Val Kilmer.
Avec surtout l'interprétation de Val Kilmer, hein, ça il y a pas de problème. Là, il a vraiment très très fort. Sur TCM lundi, Le Passage du Canyon de Jack Tourner en 46 avec Dana Andrew, Brian Donlevy, Susan Hayward. Alors si je dis Brian Donlevy, tout de suite pour les gens qui connaissent un petit peu les vieux films les années 40-50, Brian Donlevy, c'est le bad guy, c'est l'enfoiré, il y a pas de problème. Et c'est le cas puisque bon bah c'est le pote à Dan Andrews et Dan Andrews justement il doit ramener sa fiancée quoi d'un endroit à un autre, mais il s'avère que bon bah Brian Donlevy il va tout faire foirer, il va provoquer la fureur des Indiens, enfin bon, il va foutre le why quoi, à fond les manettes, c'est pas mal, c'est un bon petit western. Et sur FX, alors là aussi, c'est un film de science-fiction qui, à l'époque, a pas eu vraiment, franchement, de succès, mais qui est quand même un film à voir, à mon avis, c'est Capricorn One de Peter Iams en 78 avec Elliot Gould, James Brolin, le papa de Josh, et O.J. Simpson, où des astronautes font une mission factice en fait, et ils doivent se rendre sur Mars. Quoi. Mais bon, ça va pas du tout se passer comme ça. Ça va être le gros bordel, quoi. Et dans l'équipe et à l'extérieur. Mardi sur M6, il faut savoir que lundi le 25, ça fera 3 ans. Que Michael Jackson est décédé.
Déjà ?
Ben oui. Et donc, sur M6, à 20h50, mardi, c'est Michael Jackson, This Is It. Le truc qui était sorti en salle, hein, d'ailleurs, hein, où on voit, pas Michael Jackson, puisque, on voit surtout le spectacle qu'aurait dû produire Michael Jackson quand il est mort.
Oui.
Il s'attachait.
Voilà, les coulisses.
Comment ça se passe et tout.
Il répète.
Voilà. Par contre, ça c'est pour les fans de Michael Jackson. Par contre, sur Canal Plus Cinéma, là, on sera plus d'accord avec à 20h45 le film Fighter, c'est le dernier film de David O. Russell, qui nous avait fait Les Rois du Désert. Déjà, un premier film excellent. Donc après, il avait fait. C'est pas lui qui fait Les Chèvres du Pentagone aussi.
Il me semble.
Voilà.
Je vérifie. Hein,
donc là, un film, on va dire un petit peu spécial. Et là, Back to the Fundamental, le film de boxe avec de bons acteurs, Mark Wahlberg dans le rôle du boxeur, Christian Bale dans le rôle de son frangin.
Et maigrichon comme pas possible.
Ouais, et Melissa Leo qui a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle pour ce rôle dans Fighter. Sur Paris Première, on en remet une couche parce qu'ils ont passé toute la série des Aliens. Et là, un petit Alien Résurrection à 22h30 mardi prochain. Et sur RTL9, un petit Kickboxer 3 de Rick King, Trafic à Rio, avec Sacha Mitchell qui avait remplacé donc JCVD dans la Kickboxer. Il y a également Dennis Chan. Bon, c'est pas le meilleur, le précédent est quand même mieux, avec Sacha Mitchell également. Sur 13e rue, du JCVD encore, avec à 20h45, Ultime Menace de Simone Fellows. Alors bon, ça c'est... on va dire dispensable, on peut jeter un coup d'œil et tout, quoi. Il est dans un pays de l'Est et tout, et puis bon, il y a une ambassade occidentale qui est assiégée par des terroristes. On est dans un pays de l'Est, hein, mais bon, voilà, quoi. Et donc, lui, il doit faire sortir tout le monde parce que c'est le chef de... le chef de la sécurité et des militaires. Bref, ensuite, il y a Trafic Mortel de Isaac Fiorentin à 22h20. Alors là, bon, c'est un petit peu mieux, on va dire, parce que c'est un genre de personnage qui peut plus travailler, on va dire, et encore,
ouais, faut c'est le dire vite. C'est relatif, ouais.
C'est, faut le dire vite, quand même, mais là, bon, bah, c'est quand même un film, un JCVD à regarder, avec Scott Adkins également et Stephen Lord. Sur TCM, mardi prochain, à 20h40, encore du Jacques Tourneur, Rendez-vous avec la peur, ou comment on pouvait faire un film qui fait vachement peur, sans effets spéciaux, sans sang, sans gore, sans rien, mais vraiment le truc qui te fait flipper. Un petit peu comme La Maison du Diable de Robert Wise, hein, qui est le film archétype du genre. Là, bon, ben, un film un petit peu moins bien, mais qui est quand même vachement bien. C'est la période anglaise de Jacques Tourneur, hein, un film tourné en Angleterre. Hein. D'ailleurs, bon, ben, la production anglaise dans la période des années 50, hein, est absolument excellente. Il y a avec Alexander McKendrick et tout, les vrais réalisateurs anglais et tout, Tueur de dames, je sais pas si tu te rappelles, enfin bon. Faut revisiter un petit peu, quoi, ce cinéma anglais, quoi, de cette époque-là, parce que vraiment, il y a des petites perles. Et là, il y a encore Dana Andrews, hein, qui était un de ses acteurs fétiches et tout, et avec Peggy Cummings. Mais Dana Andrews, c'est quand même un des acteurs qui a été vachement sous-estimé, à Hollywood, qui n'a pas connu, qui connaît Dana Andrews de nos jours? Personne, il n'y a pas de problème, hein. Par rapport à des Burt Lancaster, Kirk Douglas, qui sont de super grosses vedettes et tout, quoi. Alors que c'est quand même le type qui commence sa carrière en 1940 et qui tourne avec Wellman, Preminger, trois films avec Fritz Lang, dont L'Invraisemblable Vérité, Renoir, Howard Hawks, King, William Wyler. Enfin bon, il a tourné avec les plus grands, il n'y a pas de problème. Il a fait des superbes films, ce mec-là, c'est un excellent acteur, mais bon, qui a été sous-estimé. Donc c'est une occasion de le découvrir. Mercredi sur RTL9, 22h20, The Watcher, The Joke, Charbanic avec James Spader, Keanu Reeves, Marisa Tomei et Ernie Hudson, une histoire de tueur en série. Sur TCM à 20h40, La Captive aux yeux clairs de Howard Hawks avec Kirk Douglas et Elizabeth Threat. Le titre original, c'est Big Sky. Et Kirk Douglas, qui cette année-là, c'est un film qui est sorti en 1952, et Kirk Douglas, cette année-là, il a fait deux autres films. Il a fait La Vallée des Géants de Feist, et il a fait Les Ensorcelés de Vincente Minnelli. Donc, hein, on peut dire que ça,
ouais,
va, quoi.
Il a enchaîné, ouais.
Mais pas que des bouses, hein. Y a pas de problème. C'était pas du direct-to-video à l'époque. jeudi, sur Gulli, Les Quatre Charlots Mousquetaires à 22h25, une belle de 1974. Donc, c'était les Charlots où Luis Rego s'était barré et avait été remplacé par un autre. Sur Direct Star, jeudi, toujours à 22h20, Training Day, le film d'Antoine Fuqua, qui est vraiment excellent, hein, surtout parce que Denzel Washington est excellent et que Ethan Hawke est vraiment bon. Il y a également Scott Glenn et une jeune fille qui va devenir vachement célèbre un peu plus tard et tout, parce que qu'est-ce qu'elle est bien roulée et tout, n'est-ce pas, Thomas? Eva Mendes, n'est-ce Oula. Pas, n'est-ce pas? Et je dis sur Sci-Fi, un bon nanar comme on les aime bien, Almighty Thor de Christopher Rey, qui est récent, qui date de l'année dernière, avec Cody Deal et Booker, Richard Grieco.
Ah oui, oui, oui,
le retour, d'accord. Le retour. Ciné plus frisson à 0h25, toujours jeudi prochain, à propos de Dead Snow, l'excellent film de Tommy Virkola. Ah, bon, bah, ok, ok, y a pas de problème.
De la comme neige, quoi. Des zombies, des nazis, voilà. Et des jeunes.
Ouais, voilà. Ouais, très bien. Jeunes, enfin, et une relecture, on va dire, des classiques du film de oui. Gore et d'épouvante, quoi. Sur TCM, l'excellent Niagara de Henry Hathaway avec Joseph Cotten et Marilyn Monroe, où au moins il y a un scénario qui tient la route, on va dire, hein, pour elle, quoi. Bon, ce qui n'a pas été vraiment le cas dans les films qu'elle fait un petit peu avant, exception faite de certains Lame Show, bien sûr, hein. Mais bon, là, ok, c'est vraiment un truc un petit peu hard-boiled quand même. Et sur FX à 21h, Au-delà du réel de Ken Russell en 80, c'est d'ailleurs le dernier bon film qu'il ait fait, hein, Ken Russell, parce qu'après, bon, bah, on peut pas dire que les jours et nuits de China Blue, c'est vraiment bien, sauf pour les pervers. Et puis après, bon bah ok, hein, il a, qu'est-ce qu'il nous avait fait, Gothic, il nous avait fait aussi, qui est vraiment une grosse bouse, quoi. Mais bon, Ken Russell, c'est surtout la, la décennie des années 70, et ce au-delà des réels, avec William Hurt et Blair Brown. Le vendredi, on termine avec sur RTL9, bah une rediffusion, mais ouais, le film est pas mal quand même. Hein, c'est le Flying Dagger sur RTL9 à 22h25 de Chu Yingpeng avec Tony Leung, Ka Fai, Jimmy Lin et les trois Chung, Charla, Maggie et Jackie.
Ouais, bon,
c'est kung-fu comédie, mais vraiment très très agréable. Il y a pas de problème. Sur Ciné Plus Familles à 21h vendredi prochain, la légende de Super Plus Maximus de Jeff Caneff. Alors Jeff Caneff, c'est on va dire le réalisateur qui fait dans la parodie, il y a pas de problème. Il faut que ce soit bien lourd, bien gros et tout. Plus c'est lourd, plus ça passe et tout. Bon, des fois, ça passe pas bien et tout. Bon, les Ricains, eux, sont friands ce genre de truc-là. Les Européens un petit peu moins, parce que peut-être qu'on a une culture un peu plus fine et plus avisée. Mais enfin, bon, c'est quand même vachement regardable et tout. Avec Christina Loken dans le rôle principal, Rip Torn, Sophie Monk et Jan Ziering.
Oh là, le retour de David, de Steve Sanders.
Steve Sanders dans Beverly Hills, sur FX, 21h, Les Travaux d'Hercule. Ça, c'est un peplum de Pietro Franceschi en 1958 avec Steve Reeves et Silva Cosina. Silva Cosina, qui est une actrice yougoslave, blonde, aux yeux bleus, magnifique, de forme plantureuse. Elle a également tourné, Hercule et La Reine de Lydie depuis même Pietro Franceschi 4 ans plus tard, mais elle a également tourné, bon, elle a tout de suite émigré en Italie où elle a tourné avec tous les réalisateurs italiens de l'époque. Elle a même fait un Fulci dans les années 60, mais c'était pas un film de, d'horreur, mais elle a tourné avec Scola, avec Fellini, c'est elle qui fait Juliette des Esprits, c'est elle Juliette, avec Dino Risi, avec Morbolini, elle a même tourné bien sûr dans James Franco, hein, c'est normal. En tout cas, bon, bah, c'est quand même une bonne actrice, hein, il faut dire, même si elle a tourné dans un nombre incalculable de films où on s'attachait plus à sa plastique, excellente et tout, pas siliconée du tout, mais magnifique quand même pour ceux qui aiment les blondes naturelles. Elle a été un petit peu sous-estimée, elle aurait pu être une très très grande actrice, à mon avis, hein, à l'instar de Brigitte Bardot, quoi. Mais bon, bah, ok, quoi, le coche est passé. À voir, donc, dans ses travaux d'Hercule de Franceschi, qui n'est pas forcément pas franchement un mauvais péplum. Et on termine avec un des chefs-d'œuvre de Robert Aldrich. Tu vois, je commence avec un film d'Aldrich, je termine avec un film d'Aldrich. Et là, bon, bah, ok, quoi, c'est pas son meilleur, c'est pas loin, c'est What Happened to Baby Jane, avec cette confrontation musclée entre une actrice sur le déclin et une actrice en devenir, qui plus est, qui sont deux sœurs, interprétées par Joan Crawford et surtout Bette Davis.
Ouais, ça va. Hein,
la chanson Bette Davis Eyes a d'ailleurs été inspirée de la performance de Bette Davis dans ce film. Donc, à voir. Donc, c'est sur Orange Ciné Géant, vendredi prochain, à partir de 21h. Et j'ai pas calé le truc de fin et tout, quoi. Donc,
pam, 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 on se fait la bouche, si tu veux. Alors sinon, je fais pas le résumé de l'émission, puisque vous êtes assez grand, vous retaperez le MP3 ou le .og. Donc c'était le supplément week-end. Attendons que le morceau se lance. Certainement, je sais pas si on fait émission la semaine prochaine, certainement, donc ce sera là aujourd'hui.
Les scénaristes se suivent ensemble, et on s'en sort toujours, et on...
Ouais, bah écoute, j'ai toujours du mal avec ce truc, moi.
C'est pas grave. C'est la machine, on va dire. Alors voilà, c'était l'avant-dernière émission où on était sans Da Screech. Voilà, le générique de fin de l'émission, c'est parfait. Alors, normalement, voilà, grâce à la diffusion différée, vous pouvez de toute façon réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires. Les chroniques écrites, les dernières qu'on a faites, c'était quoi? Toi, tu fais les résumés d'émissions, de tes émissions musicales. Et sinon, je crois que Death Crish, la dernière fois qu'il a posté un truc, c'était I Am A Hero, le manga édité chez Kana. Laissez vos commentaires sur nos chroniques, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web www.supplementweekend.fr, supplementweekend.fr. Vous avez aussi également sur les réseaux sociaux la page Facebook du Supplément Weekend ainsi que la page Google+. vous pouvez aller sur ces réseaux, vous tapez Supplément Weekend, nous y sommes. Voilà, vous n'hésitez pas à liker l'émission, poser vos commentaires également pour nous dire ce que vous pensez de nos chroniques. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, je lis tout à l'heure, toujours sans Death Screech, du sport. Je sais pas si tu as prévu quelque chose pour la semaine prochaine.
Non, pas spécialement, non.
Moi, je crois que je viens de me rappeler que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Je suis au milieu des vagues sur la côte atlantique. Et donc, l'émission, je sais pas, du sport, s'il se sent, s'il a fait tout seul ou s'il fait pas d'émission, voilà. Donc, vous aurez la surprise la semaine prochaine. On se retrouve donc dans deux semaines. Ou trois, peut-être, pour du sport Xavier. Moi, je ne sais pas. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye.